par le ministère sud-coréen de la Défense. Pyongyang aurait tiré 70 missiles depuis la fin du mois de février, près de la moitié pour la seule journée d'hier. Cette fois, c'est la France qui a adressé à Kuala Lumpur des images satellites qui montrent des objets flottants dans la principale zone de recherche du Boeing de la Malaysia Airlines, une zone dans l'océan Indien au large de l'Australie. À Madrid, ces incidents après la dispersion de la grande manifestation d'hier pour dénoncer l'urgence sociale. Une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes venues de l'Espagne tout entière et en fin de rassemblement, une centaine de blessés ainsi qu'une vingtaine d'arrestations. Et puis, le foot, la fin de la 30e journée du championnat de France. Aujourd'hui à suivre, le numéro 2 de la Ligue 1, Monaco qui reçoit Lille. Et avant cela, il y aura Saint-Étienne face à Sochaux et Guingamp face à Lyon. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission.
Retour dans l'international, vous êtes sur Radio France Internationale, les antennes mondiales de TV5 Monde, émission que nous réalisons avec le quotidien français, quotidien de référence, Le Monde. L'invité de cette émission aujourd'hui, Rajanari Mampian, merci d'être avec nous, d'avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président de la République de Madagascar. On vient de voir un point d'actualité, le tour du monde en quelque sorte, notamment ce qui se passe avec l'Ukraine. On a le sentiment que Madagascar a été un peu à l'écart de l'actualité mondiale, qu'on a presque oublié cette île compte tenu des difficultés desquelles elle ne sortait pas. Vous suivez cette actualité mondiale, vous avez l'ambition de ramener Madagascar dans ce contexte mondial ?
Mais bien sûr, je suis avec beaucoup d'intérêt le contexte international. C'est malheureux, hein, ce qui se passe un peu à travers le monde, hein, en écoutant tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais d'une manière générale, Madagascar sort d'une crise. Elle est préoccupée par cette crise aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité internationale, mais moi-même, je demande à l'international de regarder vers nous pour nous appuyer. Et je pense que... Non, on compatit avec... avec tout le monde.
Hein. On vient de parler des relations avec les États-Unis et la France. Sur qui comptez-vous aujourd'hui pour vous venir en aide ? L'Afrique, par exemple, il y a une solidarité interafricaine ?
Oui, j'ai constaté ces derniers temps qu'il y a quand même une stratégie de l'unité, de l'Union africaine, plus exactement, par rapport à cette évolution du monde au niveau... du commerce international, au niveau des regroupements en zone économique. Donc l'Union africaine se prépare par rapport à ça pour plusieurs dizaines d'années à venir. Et je pense que c'est important. Il faut que l'Afrique fasse bloc aujourd'hui.
Fasse corps avec vous.
Oui, bien évidemment.
Et la francophonie, vous avez été suspendu pendant un certain temps de cette instance. Est-ce que vous êtes optimiste maintenant pour de retrouver les liens au sein de...
Vous avez été reçu par le président Diouf, vous êtes réintégré ?
Mais bien sûr, donc nous sommes dedans et de toute façon, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'est Madagascar, nous sommes de la francophonie. Tout le reste, c'est politique, hein, mais on ne peut pas nous effacer ce que nous sommes en étant francophones.
La francophonie, c'est un projet politique aussi, c'est un projet en matière de bonne gouvernance, par exemple.
De valeur, hein.
Comment est-ce que vous répondez à ces exigences aujourd'hui ? Quel est votre projet ?
C'est tout à fait dans nos objectifs, hein, et dans ma démarche, dans ma vision de mettre en place la bonne gouvernance. Lorsque je disais rétablir l'état de droit, l'autorité de l'État, c'est ça, la bonne gouvernance. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller un peu plus loin, mettre en place l'aspect sécuritaire, l'aspect de justice et combattre la corruption aussi.
Mais Monsieur le Président, vous faites part de votre volonté d'aller de l'avant avec vos partenaires pour faire face aux défis de développement. Vous étiez ministre des Finances dans le précédent gouvernement. Quelle garantie donnez-vous à vos partenaires que c'est une ère nouvelle et que ce qui a pu se passer dans le passé, que ce soit les trafics ou les questions de corruption, soit aujourd'hui du domaine du passé ?
J'ai déjà donné l'exemple, hein, on parlait de trafic de bois précieux, par exemple. Donc, moi, mes premières mesures que j'ai prises, c'est de combattre à fond ce trafic-là. Donc, c'est moi qui ai donné volonté vis-à-vis de tout le monde, de tous les protagonistes, que ce soit la population, l'armée, la justice, les bailleurs de fonds aussi, qu'il faut aller de l'avant.
Par exemple, pour le trafic de bois de rose, c'est un trafic qui génère des sommes vraiment très conséquentes et donc une véritable mafia qui s'est installée. Est-ce que vous allez aller jusqu'à débusquer les commanditaires, ceux qui récupèrent l'argent du trafic au plus haut niveau ?
Mais bien sûr, je pense que tous ceux qui sont impliqués dans le cadre de ce trafic devraient répondre de leurs actes.
Justement, est-ce que vous allez juger les corrompus, les corrupteurs, ou est-ce que dans le cadre d'une amnistie, on tourne la page et on parle d'autre chose ?
Ben, j'ai déjà un peu annoncé ça dans mon discours. J'ai dit, sur le passé, moi je suis disposé à mettre un trait sur le passé. Mais par contre, à partir du
moment... Y compris la corruption.
Y compris la corruption, parce qu'il y avait déjà un processus d'amnistie qui a été mis en place avant mon élection. Donc ça, je ne peux pas remettre en question. Ça a été déjà décidé, ça a été déjà mis en place. Donc j'ai dit, ce qui est fait, est fait. Par contre, je suis là depuis le 25 janvier, donc je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'il y ait ce genre de situation qui pourrait entraîner une certaine impunité. Je crois qu'il faut bannir maintenant...
Vous nous dites que c'est la fin de la corruption en Madagascar ? Enfin, d'une corruption massive, pardon ?
La corruption, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, éliminer en un jour. C'est tout un processus. Mais je pense que j'ai démontré d'abord ma détermination par rapport à cette lutte contre la corruption. On va mettre en place les structures, les institutions qui permettent d'atteindre cet objectif. Et je crois qu'il faut sensibiliser la population par rapport à ça. Et je crois que sur l'avenir, on va réduire massivement la corruption.
Mais comment établir l'état de droit sur l'impunité ? Vous êtes en train de nous dire, vous allez passer l'éponge, que tous les crimes, toutes les pratiques illégales commises jusqu'à présent vont rester impunies.
Ben il faut faire la part des choses, hein. Donc il y a des dossiers qui sont en cours, qui sont en train d'être tranchés, donc on les laisse faire. Mais moi je parle surtout d'impunité par rapport aux nouveaux dossiers. Je n'accepte pas.
On remet les compteurs à zéro, vous dites.
On va remettre les compteurs à zéro par rapport à ça. Mais par contre les dossiers qui sont en cours, ils sont en cours.
Vous parliez d'institutions à mettre en place. Il y a une justice à Madagascar. Est-ce que vous pensez créer des commissions ad hoc, par exemple, sur des dossiers précis ? Quelle est l'architecture que vous...
Ben oui, bien sûr, il y aura des comités ad hoc par rapport à cela. Il y aura des juridictions spéciales même par rapport à cela pour trancher sur ces questions de trafic de tout genre, donc tout est possible.
Monsieur le Président, quand on regarde les indices socio-économiques, on jette un œil sur le passé, on constate qu'en 1960, il y a plus de 50 ans, les indices étaient meilleurs qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un demi-siècle, votre pays est l'un des rares au monde à avoir régressé. Est-ce que votre peuple n'est pas désabusé en disant « on s'en sortira jamais » C'est moins bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
Oui, c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je me suis présenté. En ayant constaté ça, j'ai dit pourquoi on devrait être à cette situation-là. Je ne crois pas en la fatalité. Les hommes et les femmes de ce pays peuvent le redresser. D'ailleurs...
En combien de temps, Monsieur le Président ?
Ben, le plus rapidement possible.
Certes. Le temps de votre possible. Mandat, c'est 5 ans. Vous pouvez avoir changé les choses au terme de votre mandat ?
Mais au moins, moi, je veux mettre les bases... De cet avenir radieux que je souhaiterais pour le peuple malgache.
Il y a un lien direct entre l'extrême pauvreté de la population, les gens qui ne mangent pas à leur faim, et justement le trafic, les commerces illégaux, parce que souvent les petites mains sont des gens qui sont très très peu rémunérés et ce sont seulement les commanditaires qui empochent le gros de l'argent du trafic. Comment est-ce que vous allez faire pour d'un coup mettre fin à tous ces commerces qui font vivre des gens qui pour l'instant n'ont absolument rien
Bah écoutez, la pauvreté, hein, c'est est le résultat d'une répartition inégale des richesses. Hein. Donc il appartient à l'État de mettre en place une politique qui réduit et qui réduira ces inégalités sociales. Que ce soit au niveau de ce qu'on appelle les trafics, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle le secteur informel dont vous parlez.
Mais tant que 90% de la population gagne moins de 1 ou 2 dollars par mois, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'empêcher cette contrebande ?
Ben oui, bien sûr, on peut le faire. Moi, ma politique, c'est de ne pas. C'est pas en s'attaquant à ces contrebandes qu'on va enrichir tout de suite la majorité de la population. Non, il faut avoir une politique de développement, de croissance. Et une des grandes stratégies que je mets en place, c'est développer l'agriculture. Parce que 80% de la population malgache se trouve dans l'agriculture, vivent de l'agriculture. Donc moi, je vais redonner à cette agriculture sa dimension qui permettrait à tous les producteurs d'avoir une vie meilleure. Augmenter la productivité agricole, appuyer les agriculteurs. Il appartient à l'État aujourd'hui de réaliser les grands travaux en matière d'infrastructures agricoles, les barrages, les canaux d'irrigation.
Oui, en énergie, vous êtes très dépendant de l'international. Vous êtes très dépendant du pétrole, des cours du pétrole, etc. Vous n'êtes pas autosuffisant dans ce domaine-là.
Bien sûr, mais comme beaucoup de pays. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment une contrainte qui va durer. Il faut qu'on arrive à développer l'économie, le pétrole étant un intrant. Je pense que tous les pays le subissent de la même manière.
Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs chiffrés sur la réduction de la pauvreté ?
Oui. D'une manière générale, si vous voulez, c'est de réduire d'abord cette pauvreté dans le cadre de programmes d'urgence. Ça, c'est important. C'est-à-dire créer des emplois, même si ce sont des emplois créés dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la haute intensité de main-d'œuvre, c'est créer de l'emploi d'abord. Donc ça, ça permettra d'améliorer les conditions de vie de la population, dans la mesure du possible, dépasser de manière positive c'est un dollar par jour des habitants. Donc, dans un horizon de un an, lorsque je parlais d'agriculture, c'est de pouvoir redonner la possibilité d'autosuffisance alimentaire au pays et d'avoir un surplus qui permettra aux agriculteurs d'améliorer leurs conditions de vie.
Ça, pour vous, pour l'État malgache, ça demande d'avoir un certain nombre de ressources financières. On voit que les investisseurs étrangers vont revenir sur l'île. Est-ce que vous avez la marge de manœuvre nécessaire pour définir un cadre rémunérateur pour l'État aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir imposer des règles fiscales, par exemple, qui puissent être intéressantes pour l'État malgache et pouvoir faire cette redistribution auprès de la population?
Oui, je compte sur une contribution au niveau national, au niveau local, à travers l'amélioration du système fiscal, à travers, si vous voulez, un agrandissement de l'assiette fiscale, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre en compte que le taux de pression fiscale à Madagascar fait partie quand même des taux les plus bas en Afrique, aujourd'hui, autour de entre 10 et 11%. Donc, on peut améliorer sans exagérer.
Précisément, peut-être pour compléter la question de Charlotte, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Rajanari Mampian, est-ce que les investisseurs privés vont revenir massivement? Parce qu'on voit plus d'une décennie d'instabilité. Est-ce qu'ils vont être tentés de mettre des capitaux dans un système où il n'y a pas, on le disait tout à l'heure au début de l'émission, il n'y a pas encore de gouvernement, pas de Premier ministre, bref, une instabilité? Qu'est-ce que vous dites aux investisseurs qui peut-être nous écoutent pour dire c'est le moment de revenir à Madagascar?
Et dans quel domaine? Écoutez, ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire un peu le tour, comme aux États-Unis,
pour être convaincre... le VRP de votre île.
Oui, pour convaincre tout le monde de se mettre autour d'une table. C'est ce que je souhaiterais mettre en place, une conférence des bailleurs ou des donateurs dans quelques mois. Il y a les bailleurs de fonds traditionnels, comme la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Mais il y aura aussi les investisseurs privés que j'incite à venir à Madagascar.
Ils ne sont pas inquiets du contexte économique, politique?
Madagascar n'est pas plus mal qu'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de guerre, par exemple, à Madagascar. Il n'y a jamais eu de guerre
non, mais
à Madagascar.
Mais la stabilité politique.
Mais la stabilité politique, on est là pour construire à partir de maintenant. Donc ça, c'est le plus important. Le message que je lance, c'est que nous sommes en train de bâtir. La démocratie est en marche. Une page est tournée. Les opportunités sont là. Et Madagascar aujourd'hui est une terre d'opportunités comme partout ailleurs dans ces terres d'opportunités. Et voilà,
vous dites
il y a
venez,
les ressources qui sont là.
Venez, vous investisseurs, vous
venez à Madagascar.
Dans une semaine, vous êtes de retour en Europe, vous venez à Bruxelles pour un sommet UE-Afrique. Qu'est-ce que vous attendez de cette échéance? Et déjà, est-ce que vous pensez arriver à Bruxelles en ayant déjà un Premier ministre, plus de 2 mois après votre arrivée au pouvoir?
C'est ce que j'espère vraiment. Donc je vais travailler pour. Hein.
On serait tenté de dire que ça ne dépend que de vous.
J'ai une marge. Ça dépend en partie de moi. Mais comme je vous dis, j'ai essayé de convaincre tout le monde. Il y a aussi l'aspect légal qu'il faudrait respecter. Il y a l'aspect réconciliation nationale qu'il faudrait observer.
Donc Sophie pose la question. Est-ce que vous l'aurez ce Premier ministre quand vous reviendrez en Europe?
Je l'espère bien. Je l'espère bien.
Bon.
Je vais faire tout mon possible pour y arriver.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette échéance? Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Vous devez rencontrer en marge de ce sommet, par exemple, le président français?
Oui, bien sûr, c'est prévu que je le rencontre dans le cadre de ce sommet. Je vais rencontrer bien d'autres chefs d'État ou dirigeants. La présence de Madagascar, c'est déjà important d'abord, hein, à ces sommets. Pendant plusieurs années, on était pratiquement absent.
Sous sanction, donc, à l'écart.
Voilà, sous sanction. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est là, on est présent et on participe comme tous les autres pays qui ont tous leurs droits dans le cadre de ces sommets-là.
Et qu'est-ce que vous demanderez?
Eh ben, dans le cadre de l'Union européenne, vous savez très bien que nous sommes partenaires de l'Union européenne et il y a déjà des dossiers qui ont été soumis, il y a déjà des accords qui ont été acceptés par l'Union européenne en matière de financement. C'est en cours de négociation. Moi, je demande encore à ce que aujourd'hui l'Union européenne nous soutienne davantage.
Sur qui comptez-vous aujourd'hui? Quand vous êtes dans votre bureau, on le disait tout à l'heure, il y a des urgences de tous les côtés. Donc vous comptez sur les États-Unis, l'Union européenne, l'Afrique. Vous comptez sur qui d'autre?
Je compte d'abord sur ma population qui est derrière moi. Je le regarde. C'est eux qui me donnent la force d'avancer. Et puis après, je me tourne vers tout le monde. Donc tout le monde est pour moi.
Parce que le paradoxe, c'est que cette île est très riche, mais la population très pauvre. Ou en tout cas, une richesse très mal répartie. Mais il y a du potentiel dans votre île.
Oui, mais justement, je suis là avec cette population pour transformer cette soi-disant fatalité en un avenir qui permettrait à la population vraiment de prendre en main sa destinée.
La population est un petit peu à bout de patience parce que ces 5 dernières années, la croissance était proche de zéro. Il y a des phénomènes de violence qui se développent également. Est-ce que vous craignez ces phénomènes de violence, de délinquance qui éclatent par-ci par-là de temps en temps?
Oui, ça existe comme ça peut exister un peu partout dans le monde.
Mais la pauvreté favorise.
Mais moi, je suis très confiant qu'avec les programmes que je mettrai en place, avec tout l'élan qu'il y a et que je sens au niveau du pays, au niveau international, je sens qu'on va décoller.
Les grands systèmes sont aujourd'hui, pardon d'insister sur ce qui est perfectible, mais sont aujourd'hui dans une situation très fragile. La justice et notamment la santé, l'éducation. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes à Madagascar? Qu'est-ce que vous dites à cette population qui vous fait confiance pour qu'elle ne perde pas patience?
Ben, je leur dis que je vais créer des écoles. Les enfants qui sont en dehors des écoles, je vais les ramener à l'école. Je vais ouvrir les centres de santé qui sont fermés. Je vais mettre des médecins, des infirmiers là où il devrait y en avoir. Je vais apporter des médicaments, donc des soins. Je vais pourvoir la nutrition des enfants. Voilà.
Avec qui, avec quels moyens, Monsieur le Président ?
Ben, y a des moyens au niveau national, mais il y a des moyens aussi au niveau international. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a la Banque mondiale qui est là. Il y a l'Union européenne qui est là aujourd'hui et qui poursuivent leur financement dans ces domaines-là. Ils vont intensifier dans ces domaines précis sur les mois à venir. Donc, on va pouvoir bien travailler.
Sophie Malibaud.
Afin de... Pour avoir un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre, si l'impasse perdure, est-ce que vous envisagez éventuellement de faire appel à la médiation des églises chrétiennes malgaches qui ont un rôle politique, qui ont par le passé joué un rôle de médiateur? Est-ce que c'est envisageable?
Je ne crois pas que ça va perdurer. Donc je reste très confiant.
Il n'y aura pas de médiation?
Je
n'y aura
pas
besoin d'une médiation?
Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Vous ne pensez pas revoir de nouvelles réunions entre anciens présidents?
Non, je ne crois pas.
Ce n'est pas à l'ordre du jour.
Je ne crois pas. Non, oui, je suis confiant.
Charlotte Besonnet, Le Monde.
Monsieur le Président, un certain nombre de vos prédécesseurs ont fait des promesses aussi à la population malgache sur les questions de santé, d'éducation, de développement. Quelles sont les erreurs pour vous qui ont été commises dans le passé et que vous ne commettrez pas à nouveau sur un plan économique et qui peuvent garantir qu'aujourd'hui, le développement sera assuré pour le plus grand nombre?
Mais c'est là où je dis que le passé sert à tirer des leçons. Hein. Mmh. Je prends par exemple au niveau social, lorsque mes prédécesseurs ont créé les centres de santé de base dans les régions, quelquefois dans les régions reculées, c'était de très bonnes stratégies et qui méritent vraiment d'être applaudies. Ce qui manquait, c'est de créer aussi une petite maison pour le médecin, pour l'infirmier. Donc, il y a des mesures d'accompagnement qui n'étaient pas là, et c'est ça que je vais compléter, tout au moins en ce qui concerne ce que je viens de vous dire.
Vous n'êtes pas, on le disait au début de cet entretien, vous n'êtes pas vous-même, Monsieur le Président, un politique. C'est plutôt une chance par rapport à tout ce qui s'est passé depuis des années d'apparaître, en tout cas notamment pour nous, comme un homme neuf, même si vous avez été ministre du précédent gouvernement. Vous revendiquez le fait d'être un homme différent de tous les noms que l'on cite dans les coups d'État, renversements et autres putsch.
Vous savez, hein, le fait d'être nouveau ou les nouveautés, c'est dans la tête et dans l'esprit. Hein. Et je crois que j'ai eu dans ma vie suffisamment de recul et dans mon cursus suffisamment de recul pour être conscient de ce dont a besoin mon pays et le peuple malgache.
Avant d'arriver au pouvoir, il n'était pas totalement évident que vous soyez que vous vous distanciez à ce point de votre prédécesseur Ange Radzoel. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette attitude?
C'est le destin. Vous allez en rire peut-être lorsque je dirai cela, mais c'est surtout cette prise de conscience, comme je viens de le dire, que à un moment ou à un autre de sa vie, les enfants de ce pays doivent se lever pour prendre des responsabilités.
Mais vous étiez son ministre, pardon, vous étiez son ministre des Finances. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait se distancer de l'action qui était menée par le précédent gouvernement, le gouvernement de transition?
Tout d'abord, je me suis présenté parce que j'étais un candidat de substitution de tout au moins deux candidats qui n'ont pas pu se présenter. Donc, c'est à partir de là que j'ai dû me forger toute cette vision que j'avais déjà, mais que j'ai mis en marche mais de manière beaucoup plus structurée. Pas nécessairement contre ou pour, mais je me dis, j'ai une vision et maintenant, il appartient à tout le monde que j'invite à s'aligner à cette vision.
Monsieur Rajendra Limampian, président de la République de Madagascar, merci de nous avoir accordé cet entretien. RFI Le Monde et ATV5. D'un mot, votre mandat est de 5 ans. Qu'est-ce qui aura changé? Vous dites au monde entier et à votre population, qu'est-ce qui aura changé, c'est sûr, à la fin de votre mandat?
Eh ben, l'amélioration des conditions de vie de la population, l'économie qui va se développer. Je vais